histoire à 7h22 dans votre œil sur l'actualité internationale. Pierre Marlet, bonjour.
Bonjour.
Yalta ou le partage du monde. C'est souvent ainsi qu'est présentée cette fameuse conférence de Yalta qui a eu lieu en Crimée il y a tout juste 75 ans. On va revenir avec vous ce matin sur cette page d'histoire donc qui a encore des conséquences aujourd'hui. Mais contrairement à ce qu'on prétend, Pierre, Yalta, c'est pas vraiment le partage du monde.
Mais bien non, François, parce que le mythe a la vie dure, mais que ce soit clair, à Yalta, les trois grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale n'ont pas découpé le gâteau en disant « voilà, ça c'est à toi, ça c'est à moi ». Par contre, ce qui est vrai, c'est que Yalta s'inscrit dans un processus qui était déjà enclenché et qui va aboutir à la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Ce qui va créer la légende de Yalta, en fait, c'est deux choses. Un, les populations d'Europe concernées par les décisions à Yalta n'y sont pas représentées. Et deux, la conférence se tient dans le plus grand secret. Durant 7 jours, du 4 au 11 février 1945, en clair, il y a 75 ans, le 6 février, eh bien, le grand public ne sait rien. Ce n'est qu'ensuite qu'il découvrira ce genre de film avec une petite musique d'époque, je ne vous dis que ça.
Here on the Black Sea, near the city of Yalta in the Crimea, is the meeting place of the leaders of Britain, Russia and the United States. Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Joseph Stalin.
Voilà, issu des archives américaines qui décidément recèlent des trésors. Donc Joseph Staline, Franklin Roosevelt et Winston Churchill, les trois grands vainqueurs de la Seconde Guerre rassemblés, c'est une première ?
Non, Yalta, c'est le deuxième acte d'une trilogie. Auparavant, ils se sont vus à la conférence de Téhéran fin 1943. Pour la petite histoire, c'est la première fois que Staline prend l'avion d'ailleurs.
Ah oui,
c'est ça. Ils se reverront en juillet 1945 à la conférence de Potsdam, près de Berlin. Sauf qu'à cette dernière, où l'on redessinera les frontières de l'Allemagne, Franklin Roosevelt est décédé. Il aura cédé la place à Harry Truman. Mais c'est à Yalta qu'on perçoit que les trois grands, en fait, ne sont pas égaux. Roosevelt est malade, Churchill se sent bien seul, et Staline triomphe. On est d'ailleurs en Crimée, le chef de l'Union soviétique n'a pas voulu quitter son pays, et la conférence va consacrer son pouvoir et sa puissance.
Est-ce que vous voulez dire, Pierre, qu'à Yalta, les deux Occidentaux ont cédé aux exigences du Kremlin ?
Oui, et il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, ils savent ce qu'ils doivent à l'Union soviétique, qui durant près de 4 ans fut le principal adversaire de l'Allemagne nazie et qui a payé le prix fort tout de même. 10 millions de soldats, 15 millions de civils, c'est 16% de la population soviétique qui meurt durant la Seconde Guerre mondiale. Un bilan effroyable pour les Russes, incomparable aux Alliés. Et au contraire d'ailleurs des Américains et des Britanniques, la guerre, eh bien, elle a lieu sur le sol russe. Alors, au moment de la conférence, l'armée rouge, elle est en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, et Staline entend bien y rester. Dans la déclaration finale de Yalta, on écrit que les peuples libérés se donneront des institutions démocratiques de leur choix. La formule est bien trop vague pour empêcher l'Union soviétique de faire en sorte que les peuples en question choisissent démocratiquement, je mets les guillemets, des gouvernements communistes.
Ouais, au fond, à Yalta, les Occidentaux font preuve de naïveté envers Staline.
Mais disons qu'ils ne peuvent pas ignorer le rapport de force. Comment pourraient-ils imposer, par exemple, que le gouvernement polonais en exil à Londres revienne prendre gentiment sa place en Pologne, alors que ce sont les troupes russes qui y sont et que Staline soutient un gouvernement communiste. Voyez, il y a la réalité du terrain. Puis il y a aussi autre chose. Le président américain Franklin Roosevelt est très affaibli. Il mourra 2 mois plus tard et il a 2 obsessions lors de la conférence. D'une part, il ne faut pas oublier que la guerre n'est pas finie. Il veut obtenir que les Russes entrent en guerre contre le Japon. La résistance farouche des soldats japonais fait craindre aux Américains des pertes colossales pour la conquête de l'Empire du Soleil Levant. Alors à Yalta, Staline promet d'entrer en guerre 3 mois après la capitulation allemande. Ce qu'il fera, mais la bombe atomique rendra finalement inutile l'engagement soviétique. Et puis d'autre part, Roosevelt obtient de Staline qu'il entre dans l'Organisation des Nations Unies.
L'Organisation des Nations Unies, l'ONU, créée pour sauvegarder la paix et la sécurité dans le monde. On en est malheureusement loin aujourd'hui. C'est la seule chose qui resterait de Yalta aujourd'hui, l'ONU ?
Finalement, oui, quand on regarde les conclusions de Yalta. Pourquoi ? Parce que la puissance d'abord des trois grands a décliné. C'est manifeste pour l'Union soviétique et son héritière, la Russie. La Russie qui n'est jamais que la 11e puissance du monde en termes de PIB aujourd'hui. C'est également évident pour la Grande-Bretagne, qui a perdu son empire colonial. Et ça l'est même en partie pour les États-Unis, dont le leadership est désormais contesté par la Chine. Puis, quant à l'Allemagne, que l'on voulait totalement désarmer à Yalta, elle ne fait plus peur. 75 ans plus tard, la France ne trouve rien à redire à la voir investir dans ses capacités militaires. En fait, le réarmement de l'Allemagne, c'est essentiel si on veut construire une Europe de la défense dont on parle souvent sans jamais la voir. Bref, La seule décision toujours d'actualité figurant dans ce communiqué final, c'est bel et bien l'Organisation des Nations Unies, instrument de paix, on le sait, imparfait, mais qui a tout de même le mérite d'exister.
Merci beaucoup Pierre Marlet pour cette page d'histoire qui nous montre ce matin que le monde a quand même bien changé en 75 ans, effectivement.
Y compris l'actualité d'ailleurs.
Et y compris...
Même pas la petite musique militaire. Voilà.
Non, c'est vrai qu'on n'a plus la petite musique militaire, on pourrait la retrouver d'ailleurs, pourquoi pas. Non, ce serait quand même un peu désuet. Le premier roman de Zoé Sagan dans quelques minutes. Alors Zoé Sagan, c'est une intelligence artificielle de 21 ans, programmée au départ pour communiquer avec les dauphins et qui part en guerre contre le système médiatique. Vous avez compris quelque chose ? C'est normal, non ? On va vous expliquer tout ça dans quelques minutes. À tout de suite.
7h, 9h, matin première.
Ce soir,
à 22h,
par Oui Dire.
Oui. Fabrice Cada visite l'exposition de Latifa Echakche au BPS 22 à Charleroi. Également le musée du folklore de Moucron, prix d'architecture de Wallonie.
Par Oui Dire.
De 22h à 23h sur la première.
Et 24h sur 24 sur
RTBF Ovio.